Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, que somos nós neste domingo, dia 12 de dezembro, na vossa companhia até às 14 horas. Passagem de Nível, dia 12 de dezembro. Dentro de alguns instantes iremos até Lisboa para falar das eleições legislativas antecipadas em Portugal, dia 30 de janeiro, com o presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Andivé por sans-abri, uma operação lançada pelas CCs Gaivota e Delfina. Teremos nos estúdios, por volta do meio-dia e meia, as presidentes destas associações, Maria José Henriques e Delfina da Costa. A língua portuguesa em França, a do IPBA, em parceria com a Associação dos Professores de Francês em Portugal, organiza um concurso escolar sobre o tema Voyage, Viagem. Há que lembrar que isto realiza-se no âmbito da temporada Portugal-França 2022. E falaremos igualmente da carta aberta ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a situação do ensino português em França, endereçada por José Machado. E no final, livro RG au Portugal, Le Senhor Oliveira da Figueira e des aventures de RG et Tintin au Portugal, textos de Albert Allgood, ilustrações de Philippe Dumas e edições Chandegne. E dentro de alguns instantes, precisamente, iremos até Lisboa para termos o presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Entretanto, queria relembrar que continua a exposição Resistência Visual Generalizada, precisamente que se encontra no Instituto Nacional de l'Histoire de l'Art, até o dia 15 de janeiro de 2022. E agora sim, penso eu, vamos até Lisboa falarmos com Pedro Filipe Soares, que é o presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Aparentemente há pequeninas dificuldades telefónicas, mas enfim, isto da história das novas tecnologias levam-nos não sei aonde. E alguém que vem aqui até Paris é Salvador Sobral, que vai ter um concerto na Cigala no dia 31 de janeiro. Agora sim, estamos já em Lisboa. Pedro Filipe Soares, antes de mais, muito boa tarde e pedimos desculpa pelas questões telefónicas.
Obrigado pelo convite para estar presente. É um prazer.
Ora, eleições antecipadas para o dia 30 de janeiro, isto na sequência do chumbo, o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, isso merece algumas explicações, na medida em que, bom, de uma certa forma, houve uma maioria absoluta entre aspas, ponho isto entre aspas, evidentemente, que tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista e os Verdes, quer dizer, avalizaram um certo número de diplomas do Governo Socialista. O que é que se passou relativamente a este Orçamento de Estado de 2022?
Sim, eu creio que essa pergunta é muito pertinente, porque ela, a resposta a essa pergunta dá também o tom para a campanha eleitoral e para o que está em casa nestas eleições. Nós assistimos por parte do Partido Socialista, que chegou ao governo em 2015, dependente do apoio dos partidos à esquerda, ao longo do tempo e particularmente a partir de 2019, em cair numa tentação de maioria absoluta, sem ter votos nem deputados nem deputadas para esse efeito, e a tentar evitar aquilo que seria o diálogo normal de um governo minoritário que dependia de apoio à sua esquerda para debate parlamentar. E desse ponto de vista, essa arrogância do Partido Socialista foi sendo cada vez mais visível, por um lado, e por outro lado, aconteceu que conjunturalmente teve cobertura por parte do Presidente da República, que disse logo, ainda estávamos em período negocial, que se não houvesse acordo para o orçamento, que marcaria logo diretamente eleições antecipadas. Num cálculo mais básico, mais linear, o Partido Socialista terá pensado, bem, com uma direita esfrangalhada, com a possibilidade de fazer chantagem à esquerda, este é o melhor momento para fazer eleições antecipadas. Da parte do Bloco de Esquerda, nós sentimos que essa atuação do Presidente da República claramente alinhou-se com os interesses mais umbilicais do Partido Socialista, E na verdade foi isso que determinou que não houvesse abertura do Partido Socialista para ter um resultado. Sim, mas... de um Orçamento de Estado que respondesse às necessidades do país e que falhasse em questões fundamentais, como o Serviço Nacional de Saúde, a valorização dos direitos de quem trabalha, a valorização dos salários e rendimentos, e por isso, falhando nessas matérias fundamentais no momento difícil que o país e que o mundo estão a atravessar, como é óbvio, o voto do Bloco de Esquerda não poderia ser diferente, aliás, até repetindo o voto que já tinha tido no Orçamento de Estado para 2020.
Aliás, eu penso, bom, que a resolução política da Mesa Nacional do Bloco, que data do dia 28 de novembro, levanta esses problemas e tenta avançar com ideias, precisamente, mas a propósito de ideias. Bom, mas, falo de chantagem, isso aparece, chantagem, ou então, meus amigos, vamos para uma crise política e eleições à porta, é isso que está a acontecer. Mas é verdade que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, António Costa, tinha proposto que, bom, ficamos assim e depois, na especialidade, entre aspas, vamos avançar com as vossas propostas. Isso é real ou não?
Não. Isso foi mais conversa de circunstâncias do que realidade. Porque, no que toca, em particular, ao Bloco de Esquerda, nós sempre dissemos ao Governo que quando estamos num processo negocial, estamos nesse processo a sério. E nós não começamos as reuniões em outubro, começámos-las em julho. Ora, se de julho até meados de outubro, até finais de outubro, não foi possível um acordo, foi porque, manifestamente, da parte do Bloco de Esquerda, tendo havido a abertura que houve, foi porque o Partido Socialista não quis. E por isso nós não acreditávamos que fosse depois, nos 15 dias, nas 3 semanas seguintes, que isso se mudasse. Estava já determinada a vontade do Partido Socialista. Agora, o que se coloca perante as eleições, eu creio que há aqui uma escolha que é direta. É que qual é a relação de forças que sairá destas próximas eleições. E da parte do Bloco de Esquerda, eu queria também deixar bem claro, porque creio que este ponto é importante, que nós não temos, perante o processo que aconteceu e olhando para o futuro, nós não ficamos aqui com pedras no sapato. Nós não estamos no relacionamento com o Partido Socialista com um pé atrás de quem diz que agora não vai falar com ninguém. Nós percebemos que na relação que existe em Portugal entre os agentes políticos, à semelhança do que existe no resto da Europa, os agentes políticos têm que dialogar entre si. Agora, o que nós sabemos também, e isso fica cada dia mais visível, é que é mais força ao Bloco de Esquerda que poderá levar a uma outra atitude do Partido Socialista. Porque se nós olharmos para o que aconteceu há uns anos atrás, em 2015, o Partido Socialista tinha um conjunto de medidas que se apresentou à campanha eleitoral muito diferentes daquelas que depois executou no governo. Mas, quando em campanha eleitoral foi desafiado para coisas simples como retirar os cortes dos salários da administração pública, eliminar o congelamento das pensões, o Partido Socialista, em eleições, disse que não. Mas foi depois das eleições, confrontado com um resultado que obrigava a que dialogasse com os partidos à esquerda, que teve que mudar de posição. E eu creio que aquilo que aconteceu em 2015 é muito do que está agora em jogo em 2021, 2022. É a relação de forças que sairá do ato eleitoral, se essa relação de forças imporá um diálogo à esquerda sério, profícuo, como já existiu no passado e do qual o Partido Socialista desde 2019 se quis arredar com base num sonho de maioria absoluta que, também como se percebe pelas sondagens, como se percebe pelo sentido popular, é manifestamente exagerado.
Mas, bem, Filipe Soares, o Governo pode dizer, meus amigos, tivemos a epidemia da Covid, com tudo o que isso implica a nível económico, a nível social e privado, de maneira que um certo número de coisas não podemos fazer, dada a situação económica ou social. O Governo argumentou isso também.
Sim, e eu creio que nós temos que responder com seriedade a esses argumentos, porque existiu, de facto, uma pandemia. E, durante o período pandémico, o Governo, no que toca à atitude do Bloco de Esquerda, o Bloco viabilizou tudo o que foi necessário para responder à pandemia. E parte das nossas divergências foram agudizadas até porque o Governo não foi tão longe quanto deveria ter ido na resposta à pandemia. Quer na vertente de apoios sociais, nós tivemos que, como resultado da pandemia, que as desigualdades aumentaram muito em Portugal, porque muitas pessoas ficaram sem trabalho, sem os rendimentos que tinham como havia previamente à pandemia. E o Governo português, ao contrário daquilo que o Bloco de Esquerda defendeu, foi dos governos na Europa que menos apoiou as pessoas e as empresas durante o período pandémico. Acresce outros problemas fundamentais, como a questão da saúde. Nós vemos que o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, está com dificuldade em responder ao período pandémico, mas também está com dificuldade em responder a tudo que foi adiado devido à da pandemia. E vemos que, cotidianamente, semanalmente, os responsáveis de diversos hospitais a dizer assim não dá. E o que é que acontece da parte do Governo? Em vez de responder com medidas concretas capazes de dar uma estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde, que depois de retorno também estabilidade aos utentes que dele precisa, o Governo, na verdade, não tem dado essa resposta com a força que é necessária. E isso é uma parte da divergência. Quando nós dizíamos ao governo que mais do que despejar dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, que é necessário, mas é preciso haver uma política para os seus profissionais, por um lado, garanta que eles tenham motivação para continuar no Serviço Nacional de Saúde e, por outro lado, combata a promiscuidade entre público e privado, que todos nós sabemos que existe. O que o governo disse é que não queria dar esse espaço, não queria fazer esse caminho. E, como nós vemos, aqui nestes dois exemplos, podemos ir a outros, mas estes dois exemplos, quer no que toca a apoios sociais, apoios económicos, quer no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, o governo poderia e deveria, até porque as regras europeias no que toca a déficit e a dívida estavam alteradas e davam maior flexibilidade, podia ir mais longe. E por isso a nossa divergência com o governo não foi porque o governo foi demasiado longe, não. Foi porque o governo ficou aquém daquilo que podia e devia fazer, até quando comparado com outros governos da Europa fora, até mais à direita do que o governo português.
Aliás, Pedro Filipe Soares, do Serviço Nacional de Saúde e as dificuldades, não data de hoje, a Covid veio talvez demonstrar uma situação que existia e que agora agravou-se com a privatização do setor da saúde, etc. Ainda mais. Se podemos avançar, o setor igualmente do ensino. É verdade que há mais de 30 mil, mil alunos que não têm professor no mínimo numa disciplina?
É verdade. Infelizmente, nós não vemos uma solução a curto prazo para esse problema, porque ele é mais um dos problemas estruturais que vinha previamente à pandemia e que se agravaram com a pandemia. Veja-se, eu creio que se lembrará, uma das crises da legislatura anterior foi quando o governo disse não aceito que a Assembleia da República mexa na negociação com os professores que o governo já tinha realizado. E nessa ameaça de crise, foi uma ameaça de demissão do governo, foi o PSD que cedeu e que deu ao governo a vantagem de não mudar a má negociação que tinha feito. Ora, dessa forma, virando as costas, quer para os professores, quer para as comunidades educativas, quer para os alunos e para os pais, que são quem precisa do serviço educativo. E nós, esse exemplo, que é um exemplo prévio à pandemia, nós nesse momento, estávamos em 2019, já estávamos a discutir a necessidade de responder na carreira dos professores à falta de professores. Ora, a pandemia, com muitas reformas antecipadas, com muita gente que, fruto das circunstâncias atuais, também vai ficar impedida de dar aulas por questões de saúde, com uma maior exigência de profissionais, porque também as regras Covid a isso obrigam, a pandemia mostrou como nós temos falta de professores, por um lado, porque a carreira não é atrativa para que depois eles continuem na profissão, por outro lado, porque a carreira não é atrativa porque não foi criada a vontade, não foi criado os instrumentos para tornar atrativa essa carreira. E depois olhamos para o país e vemos que há dificuldades gerais, mas há regiões com dificuldades muito particulares. E elas são fáceis de explicar. Se olharmos para a zona da Grande Lisboa, que não é o Conselho de Lisboa, é os Conselhos Circundantes, a margem sul também, nós vemos que há muita dificuldade em encontrar professores, por um lado, porque estamos à procura mais de tarefeiros do que de professores, pessoas que venham fazer um, dois, três meses, quatro meses, sem estabilidade de presença na sua profissão, e por outro lado, pagando salários, às vezes abaixo do salário mínimo.
Com o problema do alojamento, igualmente, há que não esquecer isso.
Exatamente, com todos nós sabemos o preço da habitação que aqui está. E de facto, aqui, isto mostra como o problema de mobilidade geográfica dos professores, e nós temos mais professores formados a norte do que temos a sul, não é resolúvel sem olharmos para a carreira, sem olharmos para apoios que se possam ser dados no que toca à habitação, sem termos uma perspectiva mais alargada, mais abrangente do que aquela que tem existido até agora. E por isso, desse ponto de vista, a pandemia apenas agudizou um problema estrutural que já pré-existia e mostrou como, quando houve um bloco central, ainda em 2018, que se uniu contra os professores, contra as comunidades educativas, fez mal ao país. E por isso, quando nós, neste momento do debate de período pré-eleitoral, até vemos que há algumas intenções de ressuscitar, quer formalmente ou informalmente, um bloco central, lembramos logo deste tipo de situações e como muitos problemas estruturais do país acontecem exatamente frutos desses acordos do bloco central.
Pedro Filipe Soares, muito obrigado. Relembro, presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado.
E talvez resumir, compromissos claros, dois pontos, travar a desvestação do Serviço Nacional de Saúde, recuperar salário médio e justiça para quem trabalhou. Podemos dizer que é um bocadinho o resumo do programa que vocês vão apresentar aos eleitores?
É um bom resumo, creio que em duas frases mostra as ideias fortes. Eu acrescentaria apenas uma disponibilidade geral estratégica, que é de estar confluentemente, fazer, dar acordo e dar apoio a quem queira avançar com o nosso país. E permite-me, para terminar, não tendo a ver com o programa eleitoral, mas tendo a ver com a relação que nós temos com os portugueses que estão fora do país, também dar uma nota de esperança e de alguma solidariedade para quem, neste período tão difícil, período pandémico, tem sofrido também muito com muita inconstância das medidas públicas, dos governos que não se entendem, de fronteiras que fecham e abrem, às vezes sem saber muito bem porquê, e de como isso limita a proximidade das famílias, a necessidade de mobilidade que existe. Eu creio que é necessária também essa palavra, quer palavra de esperança, de que o futuro seja mais risonho, quer palavra de solidariedade, porque se percebe que mesmo neste Natal próximo as coisas não vão ser tão boas quanto nós gostaríamos que fossem.
Com efeito, Pedro Filipe Soares. Aliás, posso já anunciar aos nossos ouvintes que vamos ter no próximo domingo a cabeça de lista do Bloco de Esquerda pela Europa e falaremos de ensino igualmente na medida em que ela é professora e presidente do Sindicato dos Professores Lusófonos. Quero-me referir a Teresa Duarte Soares e nesse mesmo domingo, ou seja, dois a oito dias, teremos igualmente a cabeça de lista da CDU pela Europa, que é a Joana Carvalho. Pedro Filipe Soares, muito obrigado e contamos consigo depois quando entrarmos em período de campanha eleitoral. Até breve, então.
Muito obrigado, bom dia.
Muito obrigado. Et on revient au direct, je rappelle le passage à niveau le 12 décembre, une émission qui sera rediffusée dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Alors, on y va, c'est parti, un duvet pour un sans-abri, une opération qui a été lancée par les associations Gaivotte et Delphine. Grâce à la vente d'un CD. CD sans domicile, avec la voix de Marie-Jo, Marie-Jo Delrich et Delphine Dacosta. Avant tout, bonjour et merci d'être là.
Bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir invité, surtout.
Alors, cette opération, Gaivotte, on connaît déjà un certain nombre de choses, mais commencer, je pense que pour nos éditeurs, ça va être une première. Association Delphine. Alors, c'est une association qui va fêter ses 10 ans, il paraît.
Exactement, au mois de février 2022, donc on fera nos 10 ans d'existence. J'ai créé cette association, je suis la fondatrice, la présidente et la coordinatrice des projets, donc créée en 2012.
Alors, ces projets, ça concerne pas seulement la France, parce que apparemment il y a l'Afrique aussi.
Oui, tout à fait. J'interviens principalement à Madagascar et au Sénégal, donc sur l'accès à l'eau potable. Mm-hmm. Donc on fait des forages dans des villages, on réhabilite les écoles, les collèges, extension. Donc on a réalisé au total 9 projets. Donc ce sont des villages qui aujourd'hui sont en autosuffisance.
Alors ce travail-là, il est fait en collaboration avec d'autres, ce que j'appelle ONG, organisations non gouvernementales sur le terrain, comment ça se passe?
Alors je mène tous les projets moi-même, c'est-à-dire que chaque projet, construction, je pars là-bas, c'est moi qui procède aux études sur place sur le terrain. Et je suis tous les travaux pendant un mois, deux mois, trois mois, je suis là-bas, donc c'est totalement du volontariat. Mmh.
Alors, ces volontariats, bon, bien entendu, dans le terrain, bon, on a l'habitude de dire, on lance des opérations, on demande de l'aide, etc., etc., des dons, mais après sur le terrain, parce que bon heureusement que la plupart des ONG sont sérieuses, mais il faut qu'il y ait un suivi. Alors, les gens, pour donner, des fois, ils se posent des questions. Vous croyez que c'est normal qu'ils se posent des questions?
Bien sûr. Moi, la première, j'ai mis 10 ans avant de créer une association et de me dire est-ce que je serai à la hauteur et est-ce que j'arriverai à réaliser et venir en aide à ces populations. La première chose, c'était le manque de transparence. Donc aujourd'hui, quand je me déplace pour des projets, je suis sur du direct. Donc je filme, je photographie et un euro est un euro. Donc tout est dans la transparence. J'ai un site internet où je procède avec, en toute transparence avec le montant et d'où viennent les dons, d'où ils proviennent. Et voilà le résultat aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous a motivé de créer l'association Delphine?
Ah, ça c'est...
Delphine, d'ailleurs, c'est en portugais pour
vous. C'est important, exactement. Les origines, mes parents sont portugais, immigrantes, et ça a été depuis l'enfance. J'ai été très, très sensible à leur histoire, arrivée ici en France comme immigrante. Ils ont fui, bien évidemment,
le régime de Salazar.
Le régime de Salazar. Ils ont connu la faim parce qu'ils viennent du Trajoujment. Du moins ma mère. Donc ça a été très difficile, ce chemin parcouru, qu'on peut aujourd'hui reprendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs pour les sans-abri, pour la plupart, les migrants. Donc tout est... aujourd'hui, on vit encore ça. Ça vient de d'autres pays, mais on vit la même situation, déracinement.
Malheureusement.
Déracinement. On est déraciné du pays, les familles... explose.
Éclaté, ouais.
Brésil, Brésil, Suisse, Belgique, Allemagne, enfin notre histoire est vécue par d'autres aujourd'hui. Donc j'ai été sensibilisée par leur histoire, j'ai voyagé et effectivement j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait une grosse famine. J'ai vécu des choses en Afrique qui m'ont vraiment très touchée et je me suis dit aujourd'hui on est dans la surconsommation, j'en suis sûre qu'on peut apporter de l'aide.
Oui, mais normalement on culpabilise les gens, parce que l'environnement va mal, le climat va de pire en pire, c'est notre faute à nous, comme si l'économie, laissons ça de côté. Mais tout à l'heure vous avez fait la comparaison entre les Portugais quand ils sont arrivés et je sais pas, on a à nouveau énormément de bidonvilles, les Portugais sont passés par là. Ouais. Aujourd'hui, ce sont des gens d'autres origines, les Roms, mais pas seulement.
Oui.
Donc il y a quelque chose de pourri dans cette société, surtout pour une organisation qui essaie de faire de l'humanitaire, non?
Tout à fait. Là, il y a beaucoup de travail. Après, en tant qu'association et ma petite structure, on intervient principalement dans l'orientation, l'information, le soutien, distribution de repas, de couverture, au moins pour essayer de passer cet hiver qui est chaque hiver rude. Mais au-delà de ça, il y a effectivement tout est politique. Dans ces pays-là, tout est politique, les passeurs, les mauvaises informations qui sont données. Donc ces personnes arrivent ici, effectivement, ils sont totalement à l'abandon. Et ils découvrent que finalement, le rêve n'est plus un rêve. Donc c'est compliqué pour eux de repartir au pays où les familles ont fait des crédits pour payer les passeurs, pour venir. Donc aujourd'hui, c'est...
Comme les Portugais l'ont fait d'ailleurs, ouais, cette histoire
exactement.
De photos déchirées. J'en passais les meilleurs, bon, donc c'était ça. Alors, justement, on va aller un petit peu au concret. Un petit chouïa sans domicile, c'est l'instrumental. Sans domicile, la musique de Gisèle Vasselet et Patrick Pernet. Marie-Jo, justement, alors ce CD, bon, s'il y a deux plages, comme j'ai l'habitude de dire. Sans domicile, la musique, et à la fin, avant 13h, on va t'écouter chanter. Et celle-là, c'est la version instrumentale. Donc c'est un travail d'équipe, ce CD?
Absolument, oui. C'est une chanson qui n'est pas récente, qui a été chantée par une amie qui était une deuxième maman pour moi, tu vois. J'ai toujours dit, j'ai une maman au Portugal, j'ai une maman en France. Et cette chanson, elle avait enregistré un album avec cette chanson, et je me suis dit, cette chanson, elle est trop belle, je l'enregistrerai un jour. Voilà. Je m'étais promis ça, et voilà, c'est fait. Et comme tu dis, c'est donc un travail d'équipe, parce qu'il y a les paroles donc, de Gisèle, la musique de Gisèle aussi, et de Patrick Pernet, qui en a fait les arrangements, que j'adore, je les trouve sublimes. Hein. C'est quelqu'un de très... d'extraordinaire. Patrick Pernet, il fait partie de Gaivotte depuis des années, et il fait plein de choses.
Alors.
Et donc, effectivement, après, il y a aussi la pochette qui a été faite, enfin l'illustration de la pochette qui a été faite par Nathalie Afonso, que je remercie ici très chaleureusement, qui est magnifique aussi. Donc voilà, après, il y a aussi une vidéo maintenant, qui est sur YouTube, qui a été faite par un ami et que faite en dessin animé, je dirais, qui illustre un petit peu les paroles, qui illustre très bien, je trouve, les paroles.
Ça qui se passe, hein.
Voilà, de la chanson. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. C'est sûr que seul, je n'aurais pu rien faire. Mmh. Ça, c'est certain.
Alors, mais qu'est-ce que je fais là, sous ce pont, à regarder couler la Seine? Qu'est-ce que je fais là, sous ce carton? J'attends que la mémoire me revienne, mais qu'est-ce que je fais là sous ce pont à regarder ce que charrie la Seine, mais qu'est-ce que je fais là sous ce carton, j'attends que la mémoire me revienne. Bon, ça c'est le quotidien justement de ceux que... Et d'ailleurs, souvent, Delphine, justement, on passe à côté, mais ces gens-là, ils deviennent invisibles, c'est incroyable.
Incroyable l'indifférence qu'aujourd'hui nous avons. Alors la force de l'association, quand on fait des maraudes dans différents arrondissements en voiture sur Paris, c'est que mon association est ouverte à tous les bénévoles, à toute personne qui souhaite même agir une seule fois, deux fois, trois fois, mais c'est qu'ils aient un autre regard. Et c'est ce qui se passe en général lors de nos maraudes, c'est qu'il y a une prise de conscience. Ah, mais ils ont de l'humour. Ah, mais ils ont été très gentils. Il y a comme une crainte.
Comme finalement, s'ils étaient des animaux, ils étaient plus des êtres humains.
Totalement. Donc on a un autre regard, et si même les personnes n'interviennent qu'une fois ou deux fois, mais au moins ils repartiront avec un autre regard, et ils pourront avoir un autre geste, un autre regard quand ils les croiseront.
Et tu pourrais peut-être, Delphine, lancer un appel ici aux bonnes volontés, parce qu'on manque de bénévoles justement pour les maraudes et de véhicules surtout. Alors s'il y a des gens qui sont véhiculés, qui ont envie de participer, c'est dimanche-là qui vient déjà.
Le dimanche 19, la prochaine maraude, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Effectivement, cette crise-là qui se passe, crise sanitaire...
Oui, ça continue. Bon, on est en pleine trêve voilà. Hivernale, en principe pas d'expulsion, je dis bien un principe, mais ceux qui sont dehors, ils restent dehors. Et d'ailleurs, bon, même si on leur donne à manger, même si on leur permet de se laver, de changer de vêtements, mais il n'y a pas d'accompagnement social ni autre, parce que ni médical, parce que la plupart d'entre eux ont des addictions, ils sont complètement désocialisés. Bon, c'est-à-dire, on leur donne à manger, on leur donne des couvertures, on leur fait un certain nombre de choses, mais ça ne suffit pas.
C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a des organismes, ils sont nombreux dans l'Île-de-France, Paris, banlieue. Ce sont les ESI. ESI.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, il me semble que... Oui. J'ai un doute là.
Les sigles, parle des sigles. Mais...
Oui, ce sont des organismes qui accueillent en fait les sans-abri, qui proposent, donc ils ont tout, hein, sur place, lave-linge, douche, proposent également des boissons chaudes, et il y a une assistante sociale. Maintenant, effectivement...
Oui, savoir s'ils ont le droit au RSA, et tout un tas de choses.
Ils essayent de, voilà, pour le logement, mais tout ça c'est long, le système est très long, c'est très compliqué, donc effectivement il y a beaucoup à faire, ou tout à revoir, je dirais même, sur cette partie là
ouais, mais pourtant à Paris, région parisienne, on a des centaines de milliers de mètres carrés vides, appartements, bureaux et tout ça. Alors revenons quand même au départ. Opération un duvet pour un sans-abri. Donc 3 CD vendus égale un sac de couchage.
À peu près, je dirais 3,5.
Bon, les sacs on ne va pas chipoter.
Mais... oui, voilà, on ne va pas chipoter. Mais c'est une réalité quand même. Voilà, il faut, pour qu'on puisse acheter un sac de couchage, ben, il faut vendre des CD. Ça passe par là. Voilà. On va aller, là, en sortant, on va aller à Decathlon, on va négocier, on va essayer. On était parti sur un projet d'une centaine de sacs de couchage. On est loin du compte, là, actuellement. Donc, s'il n'y a pas vraiment de gens qui adhèrent à notre projet, ben, on en achètera beaucoup moins, mais on en achètera quelques-uns et c'est toujours ça, quoi.
Mais ça veut dire que les entreprises auxquelles vous adressez, elles tiennent compte qu'il s'agit d'une opération solidaire et, ou pas? Est-ce que ouais, pour eux, c'est... le prix, c'est le prix. Si vous n'êtes pas content, allez ailleurs.
L'argent, c'est l'argent. Et ces gens-là veulent faire de l'argent. Donc déjà, faire une réduction, c'est compliqué, apparemment.
Hein, il faut négocier, c'est ça,
Delphine? Oui, voilà. Bien sûr, oui, tout est dans la négociation. Après, bien sûr, on voit d'autres... Il y a plusieurs enseignes, on a fait des devis. Le but, c'est effectivement, c'est de les sensibiliser pour avoir le meilleur tarif. Après, on cherche aussi des duvets de qualité. Si on a des duvets d'été, ça sert à rien. Donc là, il faut qu'on mette quand même le prix. Il faut de l'épaisseur pour qui la plupart dorment dehors. Ils n'ont pas tous des tentes. Ceux qui ont des tentes ont parfois que la tente. Donc pas de couverture, ils n'ont pas d'épaisseur. Donc on fournit actuellement des couvertures que la Croix-Rouge et Emmaüs ne sont pas autorisés à distribuer. Donc nous, on les distribue. Donc on s'entraide entre associations. Pour l'instant, c'est ça. Mais le sac de couchage reste le plus important là, si on peut leur fournir. Donc j'ai trouvé la démarche de Marie-Jo très intéressante. Et du coup, on a mis ça en place, effectivement.
Alors concrètement, donc pour à court terme, c'est un duvet pour un sans-abri. C'est là que vous avez, parce que bon, il y a Noël qui s'approche aussi, c'est encore une autre histoire.
Ça. Et oui. Là, Marie-Jo, si tu veux prendre la parole.
Bah, ce serait génial s'ils pouvaient les avoir pour Noël, effectivement, ce serait un magnifique cadeau. Mais comme je disais tout à l'heure, on est loin du compte, c'est compliqué de sensibiliser les gens, de les toucher. C'est vrai que les gens sont très sollicités aussi.
Bien sûr. Hein,
un peu partout, donc après il y a un choix à faire. Et puis... Mais voilà, d'où notre passage ici, chez toi, et je pense que tu as été touché par notre démarche et que tu nous as invités. Donc voilà, un grand merci. Et à travers donc l'émission d'aujourd'hui, espérons toucher plus de gens.
Alors, comment faire pour ceux qui veulent soutenir cette opération? Bon, il y a les incontournables réseaux sociaux, n'est-ce pas?
Je sais pas. Hein? Bah, c'est le meilleur moyen d'arriver à toucher les gens.
Concrètement.
Oui, voilà. Non, mais il y a un lien là sur nos pages à nous, sur nos sites. Et si les gens cliquent sur le lien qui est dans des posts qu'on n'arrête pas de mettre sur les réseaux. Et
donc c'est l'association Delphine, D-E-L-F-I-N-A, l'association Gaivotte.
Gaivotte,
Gaivotte Fave, bon. Il y a le lien.
Oui, l'association s'appelle Gaivotte, mais sur les réseaux, c'est Gaivotte Fave, parce que des Gaivotte, il y en avait déjà pas mal. Donc il fallait se dissocier un petit peu des autres. Donc les gens ont la possibilité donc d'aller soit sur le site de Delphine, soit sur le site de Gaivotte, soit sur nos pages Facebook. Et immanquablement, s'ils cliquent sur le lien, ils tombent sur le site de Eloisos. Et là, ils peuvent acheter un CD, deux CD, 20 CD s'ils veulent. Voilà.
Donc, alors, une petite question. Oui, bon, donc ça, c'est des achats parce qu'il y a des opérations où on peut récupérer. Bon, ça, c'est intéressant. C'est des choses qui me dépassent un petit peu. On fait un don et on peut réduire nos impôts. Bon, et là, ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout la même opération, là, je crois.
Non,
parce que du coup, Marie-Jo, effectivement, ça sera les bénéfices qui serviront à l'achat du sac de couchage. Effectivement, tout ce qui est don, si les gens veulent faire des dons à part, et bien sûr c'est possible, et effectivement ils sont déductibles d'impôts de 66%.
Voilà.
Des dons à l'association Delphine.
Bien sûr.
Voilà. Delphine, D-E-L-F-I-N-A. Alors, Marie-Joseph, puisque j'étais là, sur ma droite, bon, pas dans l'vision politique, s'il vous plaît.
Non, toi, non.
Et bon, j'ai pas compris cette allusion. Bon pardon. Alors, avançons un petit peu. Bon, en plus, cette opération induvée pour un sans-abri. Le 19 décembre, qu'est-ce qui va se passer au Château Laurence?
Eh bien, on recommence, comme tous les mois, donc nos rencontres, les rencontres mensuelles de Gaivotte, nos RMG. Donc, on se retrouve au Château Laurence, à Bry-sur-Marne, à 16h, comme d'habitude, avec des musiciens, des fadistes, des chanteurs français, des chanteurs portugais.
La poésie,
à boire
la
et à manger, voilà, le coin littérature. Il y a un petit peu de tout pour que les gens se sentent bien. On essaie de leur donner envie de venir, nous découvrir ou de venir habiter. Voilà, on a des fidèles qui sont là tous les mois. Donc, je pense qu'ils s'y sentent bien. Donc, voilà, on donne rendez-vous le 19.
Avec qui c'est l'invité?
Et c'est une chanteuse qui n'est jamais venue, Anna Paul.
Ah.
Voilà, Anna Paul, elle n'est jamais venue à Gaivota, donc les gens vont la découvrir.
Une chanteuse de fado?
Voilà, c'est une fadiste, et puis il y aura d'autres artistes, effectivement, qui se joignent à nous, donc, et qui font partie du programme.
Madame, merci d'être passée ce dimanche, je rappelle dimanche 12, donc opération Induvé pour un sans-abri, deux assos qui travaillent ensemble, je vais parler de Gaivota, et association Delphine, D-E-L-F-I-N-A, bien que Delphine de quoi, il y a un PH.
Exactement, mes parents ont voulu mettre PH, mais voilà, c'est bien ça.
Mais PH c'est un symbole de la chimie aussi, chimie.
Oui, c'est vrai.
On peut faire tout dire au mot, mais enfin. Merci. Donc, cette opération, vous allez directement sur les réseaux sociaux. Gaivota, ou Delphine.
Tu permets ici, Arthur, que juste 30 secondes, de remercier. Moi, j'ai déposé des CD dans plusieurs endroits, des amis, des commerces. Donc, ils y sont. Si les gens veulent, voilà, j'en ai déposé à la pastellerie Blain, voilà, qui en vend. Et puis, il y a des amis qui se battent un petit peu à nos côtés, Manuel, Elise, bon, je ne vais peut-être pas dire les noms parce que je vais en oublier, donc qu'on m'excuse. Mais voilà, j'ai fait appel, voilà, aux amis.
Ils vont se reconnaître.
Voilà, tout à fait.
Merci. On arrive pratiquement au bout de la première heure. Et choses promises et choses dues. Sans domicile, cette fois-ci, la voix de Marie-Jou. Donc, j'appelle parole de Gisèle Vasselet, musique de Gisèle Vasselet et Patrick Pernet. Sans domicile.
Qu'est-ce que je fais là sous ce pont, à regarder couler la Seine? Mais qu'est-ce que je fais là sous ce carton, j'attends que la mémoire me revienne. Mais qu'est-ce que je fais là sous ce pont, à regarder ce que charrie la Seine? Mais qu'est-ce que je fais là sous ce carton, j'attends que la mémoire me revienne. Lisse une péniche sur la Seine, des voix s'élèvent, j'entends à peine. On vous apporte du Bordeaux, c'est le meilleur moyen d'avoir chaud. Est-ce qu'il s'adresse aussi à moi? Je réfléchis sur mon pas. Rien à voir avec ces gens-là, je ne faisais que quelques pas. Qu'est-ce que je fais là sous ce pont, à regarder couler la Seine? Mais qu'est-ce que je fais là sous ce carton, j'attends que la mémoire me revienne. Mais qu'est-ce que je fais là sous ce pont, à regarder ce que charrie la Seine? Mais qu'est-ce que je fais là sous ce carton, j'attends que la mémoire me revienne. Hirsute et mal rasé s'approche, me touche et me demande si le SAMU m'a bien soigné. Je le regarde sans comprendre. Il paraît qu'un soir de cafard je me suis tailladé les veines et que je pleurais comme un moutard dans les bras d'un copain clochard. Et dans ma tête c'est la tempête, j'y vais chercher, je suis comme une bête. Je ne suis qu'une pauvre naufragée, comment ai-je fait pour couler? Quelle était ma place dans cette vie? Avais-je des copains, des amis? Peut-être même une famille ou un mari super gentil.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Começamos a segunda hora desta passagem em nível. Lembramos que a emissão é redefundida à noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. Língua Portuguesa em França, a DUPBA, em parceria com a Associação dos Professores de Francês em Portugal, organiza um concurso escolar sobre o tema Voyage, viagem, que decorre simultaneamente nos dois países, isto no âmbito da temporada Portugal-França 2022. António Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco aqui em direto, professor e secretário-geral da ADUPBA. Antes de falar deste concurso, talvez um balanço, vou-lhe pedir um balanço da Assembleia Geral Ordinária da Associação, que decorreu do dia 6 de novembro na cidade universitária e na Casa de Portugal. Ora, foi uma Assembleia Geral onde penso que vocês debateram obrigatoriamente a situação do ensino português aqui em França e, em pano do fundo, a reforma do liceu e do BAC, não?
Sim, exatamente. Portanto, fizemos o balanço anual da Assembleia Geral, abordamos sobretudo o concurso escolar sobre o Dia da Língua Portuguesa, foi o 5 de maio, que foi decorrer sobre dois anos, por causa da pandemia, mas também sobre, evidentemente, a situação do português em França, porque esta reforma não vem nada em nada favorecer o desenvolvimento do ensino de português. Porque o problema que nós sublinhamos é que, portanto, em França há um grave problema entre a passagem da escola primária para o secundário. É que há uma perda enorme de alunos, porque os alunos que seguem as aulas em algumas escolas primárias depois não têm continuidade. E esses alunos nós perdemos no colégio, no liceu. E, portanto, esse é que é o nosso, portanto, é a nossa prioridade. Aliás, foi que nós frisamos na Embaixada de Portugal. O embaixador lançou o que chama-se a CAPEF, que é uma comissão de acompanhamento, e foi esse problema, enfim, que já foi sublinhado há muito tempo. Mas enquanto não houver, os dois, pensamos que são os dois ministérios que têm que resolver essa situação, quer dizer, é o Ministério de Educação Portuguesa e Francesa, é que tem que encontrar e resolver essa situação. Tem que haver, como é que é dizer, onde há duas, três escolas primárias, haver um colégio, porque senão não há continuidade.
No entanto, agora vou citar Jean-Michel Blanquer, o ministro francês de Educação, que ele esteve no espaço dedicado a Portugal no salão Partir Étudier à l'étranger. Portugal é convidado de honra. Ora, cita, ele qualificou a língua portuguesa como magnífica e prometendo apoiar o seu desenvolvimento em França. Bom, lhe promesse não gajo que sei que cola, não é?
Sim, quer dizer, nós, muito bem, são palavras muito bonitas, depois o que queremos são actos, quer dizer, são provas, o que é, como se diz, as provas de amor é que são significativas. Portanto, gostaríamos que, efetivamente, os dois ministérios se encontrassem, resolvessem o problema da continuação, e depois, para desenvolver o português em França, também é preciso professores, quer dizer, tanto da parte portuguesa como da parte francesa, é preciso pôr professores, mais professores para a escola primária e recrutar mais professores no ensino secundário, porque este é que é o problema, porque sem professores pode haver a maior vontade, não haverá desenvolvimento da língua em França ou em qualquer parte.
Ora, entretanto, o ministro, volta a ele, Jean-Michel Blanquer, prometeu constituir até ao final deste ano o Conselho Superior das Línguas em França, que terá como missão melhorar a aprendizagem de línguas em França, e o português será uma das línguas visadas. Já ouviu alguma vez falar deste Conselho Superior das Línguas em França?
Não, nunca tinha ouvido falar, não sei qual é o projeto. Não sei o que está...
Como dizia o outro, ver para crer. Bom, agora, mas relativamente ao ensino da língua portuguesa, eu recebi de uma secção portuguesa da UPPA, é um gráfico interessante, o número de leitores europeus presentes nas listas complementares das localidades aqui em França por nacionalidade. Pois bem, é que o maior número daqueles que estão inscritos são de origem portuguesa, ou são portugueses concretamente, 111.611. Obviamente, a Associação de Português pergunta, bom, vendo o número de inscritos nos cadernos eleitorais complementares, no entanto, a língua portuguesa deixada de lado é uma reflexão que também adota?
Eu penso que os eleitos que estão no terreno, eles é que podem fazer pressão justamente sobre, por exemplo, uma mairie para a abertura do português na escola primária, podem fazer pressão sobre o reitorado, por exemplo, para a abertura do colégio. Portanto, eu acho que podem desempenhar um papel fundamental nesse sentido, mas tem que haver uma concertação entre os eleitos, tem que haver uma demanda de consciência, portanto, que há um problema do desenvolvimento. Eu penso que tanto os eleitos como as associações podiam se mobilizar, porque o reitor ouve mais facilmente os pais os eleitos do que os professores, quer dizer, os professores se queixarem, bom, ele já sabe que isso faz parte do folclore, mas, portanto, eu acho que é mais importante são os pais e os eleitos, e até os eleitos deviam mobilizar os pais das associações para fazer pressão sobre uma câmara ou sobre o reitor lá, para que, ou sobre um colégio, por exemplo, porque normalmente o diretor de um colégio e o conselho de administração de um colégio têm toda a liberdade para abrir ou fechar uma turma de língua. E, portanto, os pais têm que ter consciência, têm um poder enorme. Para isso também seria bom que eles se inscrevessem nas listas eleitorais, que eles pudessem votar, porque normalmente quando um MER vê o número de inscritos portugueses, isso também conta, quer dizer, isso também conta.
Há uma boa notícia, entretanto, foram abertas as pré-inscrições aos testes de entrada no Liceu Internacional de Pontonnier. Isto é em Estrasburgo, pré-testes estes, até o dia 21 de janeiro. Ora, aparentemente, apenas os alunos já estão escolarizados na Academia de Estrasburgo, ou os que vão lá residir para a rentrée 2022 é que se podem inscrever. Mas agora fica um cucu aos nossos ouvintes de Estrasburgo.
Sim, mas isso vai haver testes em todas as secções internacionais. Portanto, normalmente no liceu organiza sempre os testes por volta de janeiro e fevereiro. Eu aproveito para dizer que aqui no Liceu Internacional no Agilgon também vai ser em fevereiro. Portanto, isso é normal. Todas as secções organizam testes para depois selecionar, porque há muitos pedidos. O ano passado, por exemplo, em Noisy-le-Grand, no Lycée, no LIEP, que chama-se o Liceu Internacional de Leste de Paris, apresentaram praticamente 50 candidatos e só 25 puderam entrar. Exatamente. Portanto, a seleção tem que ser feita com esses testes. E também com o dossiê, é preciso ter um bom dossiê, boas notas em todas as matérias.
Eu também foco isso porque a Rádio Alfa pode ser ouvida em Estrasburgo, aliás, com Estrasburgo, Lyon, Lille, graças ao DAB. DAB é o equivalente da TNT de televisão. Ora, falemos desta edição do concurso, como eu disse, viagem, isto...
Portanto, exato, a particularidade deste concurso é que é portanto, no decorrer da temporada de Portugal, da França-Portugal, e para isso tivemos que encontrar um parceiro em Portugal. Obviamente contactamos a Associação dos Professores de Francês em Portugal e que aceitaram, portanto acharam que era uma ótima ideia. E escolhemos o tema da viagem, que é um tema... Agora, este concurso, a particularidade é que só podem apresentar vídeos. Vídeos de 2 a 5 minutos. Podem participar ou sozinhos ou um grupo de 2, 3 máximo. E esses vídeos depois, portanto, a data limite é a inscrição e para enviar os trabalhos até o dia 10 de março. Esses vídeos vão estar numa plataforma ou aqui na Associação, na DPBA ou então na Associação de Professores em Portugal, dos professores franceses, e vão estar durante praticamente um mês para que também o público possa votar. Depois o júri reúne-se e os resultados serão publicados depois no mês de maio. No mês de maio, por volta do 5 de maio, que é o dia da língua portuguesa aqui, portanto, a dia escolhida pela ONU, e a entrega dos prémios por volta do 10 de junho.
Sim, é uma data simbólica, precisamente.
Sim, nós escolhemos as datas simbólicas, como a data do francês, da língua francesa em Portugal, da língua portuguesa, tanto decretada pela ONU. Escolhemos datas, enfim, simbólicas, como é óbvio.
Ora, há que referir que aquilo, os trabalhos, os alunos, são submetidos a um certo número de critérios. Bom, são enormes, para já respeitar o tema da viagem, inspiração e o estresse de obras ou de capítulos ou de citações de autores que já falaram do tema viagem. Exemplos José Saramago, Miguel Torga, podemos continuar assim, Henrique Manuel Schmidt, Michel Tournier, exprimir ou expressar conhecimentos, estar presentes na língua portuguesa, bom, etc, etc, mas o melhor é ir diretamente ao site. Tanto,
exatamente,
tanto
a informação
vosso,
está no site.
Porque, bom, aí há o regulamento, é isso tudo, tanto no vosso, como igualmente no que diz respeito à Associação dos Professores de Francês em Portugal. É importante essa parceria que vocês organizam com Portugal?
Para nós é extremamente importante, é a primeira vez, portanto, porque em Portugal o francês também está em queda e é importante desenvolver o ensino do francês em Portugal, como desenvolver o ensino do português em França. E, portanto, esta parceria para nós parece extremamente importante. E também seria importante que os ministérios compreendessem e que se juntassem para refletir sobre o desenvolvimento do francês em Portugal como o desenvolvimento do português em França.
Bah, normalmente houve uma reunião, estava prevista uma reunião, precisamente a bilateral sobre a questão do ensino de português aqui em França. Tinha-se falado nisso, mas não teve notícias de nada, António Oliveira.
Sim, enfim, eu penso que houve uma reunião, mas foi uma reunião bastante secreta, porque infelizmente, enfim, mas eu penso que isso é reunir, mas eu acho que foi enfim, foi bastante sigilo e nós gostaríamos que houvesse resultados a partir desses encontros.
Enfim, agora temos que esperar pelo dia 30 de janeiro, vão haver eleições de Madrid. Bom, já encontraram uma boa desculpa, peço desculpa de falar assim, mas é o sentimento que eu tenho agora, diz, bom, mas temos que esperar para as eleições, novo governo, novas diretivas evidentemente e por aí afora, mas enfim. Bom.
O problema é esse, mas é a vida política que é assim, isso, contra isso não podemos fazer nada.
António Oliveira, muito obrigado. Relembro-se secretário-geral da ADU-PBA a propósito deste concurso, um concurso que é realizado entre a Associação ADU-PBA, a Associação Portuguesa dos Professores de França em Portugal, isto no âmbito também da temporada cruzada Portugal-França, que vai arrancar no mês de fevereiro. E até breve, então, António Oliveira.
Até breve, obrigado. Boa tarde a todos.
E, meus amigos, já conhecem a canção do Boris Vian? Monsieur le Président, je vous ai écrit une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. José Machado, muito boa tarde.
Olá, viva.
Ora, José Machado, esta feita, a carta não foi endereçada a um presidente francês, mas sim ao senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O título da carta, Quem acoda a nossa língua? Ponto de interrogação. São as conclusões que chega sobre a situação da língua portuguesa aqui, depois de ter vivido nestas terras gaulesas durante mais de 40 anos?
É, mas eu pus isso em francês, Monsieur le Président, como tu disseste há pouco, a estrofe, parece que conheces bem a canção, o Marcelo Rebelo de Sousa também deve conhecer, e eu achei que devia utilizar essa forma para dar alguma força a esta denúncia desta posição escandalosa da Academia de Montpellier.
Sim, há que relembrar os nossos ouvintes, precisamente. Eu, aliás, tinha entrevistado o Tito Lívio sobre essa questão, foi ele que lançou o alerta. A Academia de Montpellier decidiu recentemente que a língua portuguesa não devia passar as portas dos estabelecimentos do ensino público desta região, porque, e cito, o seu ensino faria baixar o nível desses estabelecimentos. Fim de citação.
É, quer dizer, isto lembra-nos os tempos de chumbo, do tempo dos bairros de lata, do tempo em que os nossos filhos não tinham o português nas escolas e tinham que seguir pelo CNED, que ainda por cima era animado por professores brasileiros, que por vezes os textos eram tão difíceis para os miúdos portugueses de entender aquilo. Nesses tempos em que, enfim, o combate pela dignificação da língua portuguesa ocupou os gerações de imigrantes portugueses que lutaram pela sua integração plena no sistema de ensino francês, embora a gente esteja a ver que hoje esse combate dá décadas, quer dizer, parece que é infrutífero esta imagem. Esta imagem da língua portuguesa como língua de comunicação internacional e não como língua de imigrante, não é? É extremamente difícil, unicamente para os imigrantes, de travar esse combate. É por isso que eu acho que isto é um assunto nacional. Por isso enviei a carta ao Presidente, que o Presidente da República é ele o maior responsável pela defesa da língua portuguesa. Como, enfim, como pilar da nossa cultura, da nossa história, e é ele fazer algo, não é? Ele respondeu-me.
Mas, José Machado, uma pergunta. Precisamente a língua portuguesa aqui tem um caráter profissional, internacional, cultural, etc. Mas há um movimento, não sei, das comunidades portuguesas que pede o ensino de português estrangeiro, língua materna. Será que isso não é um debate que já falava-se nisso há 40 anos e que hoje está ultrapassado? Ensinar português em França, ou seja, do país que, qualquer que seja, como língua materna, isso entra na... é ajuizado para si ou não?
Quer dizer, isso é um tema para um grande debate, não é?
Eu sei, mas enfim...
Na minha altura, quando eu cheguei à França nos anos 70, éramos 1 milhão de portugueses e, enfim, e as nossas crianças eram centenas de milhares. Talvez aí se justificasse o ensino como língua materna. Hoje, enfim, a questão pode merecer algum debate. Será que haverá público para isso? Embora que esta questão da língua materna não era só... muitas vezes nós alargávamos isso mesmo aos miúdos. Lembro-me quando Jacques Lang introduziu o ensino das línguas estrangeiras no LV1, no CM1 e CM2 em França, que não existia, não é? Nessa altura, a língua portuguesa podia ser ensinada em alguns sítios, foi, não só a crianças portuguesas, mas a outras crianças, assim como o inglês, ou o francês, ou outra língua qualquer, não é? Portanto, isso é uma questão em debate, mas é sobretudo a questão da defesa da língua portuguesa como língua de comunicação internacional. Parece que me estou aqui a lembrar, enfim, da revolta constante de um homem como o José Augusto Seabra, que tu também conheceste muito bem, Artur Silva, e que ele revoltava-se tanto com a situação em que estava a língua portuguesa. Lembra-te que criámos até a Associação dos Lusofalantes na Europa para poder defender o ensino da língua portuguesa nos vários países europeus, não é? Enfim, isto eram quase iniciativas... de pessoas, de cidadãos. O Estado português esteve quase sempre ausente deste combate. E o Instituto de Camões, nós já dizíamos naquela altura, e eu continuo a dizer, a livraria lusófona do João Heitor, no Quartier Latin, fez mais pela língua portuguesa que o Instituto de Camões.
Aliás, o Instituto de Camões, em vez de estar ligado ao Ministério da Educação, está ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas enfim. José Machado, muito obrigado. Lembro, foi Presidente da Federação de Associações Portuguesas de França, foi Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, e o tema da língua portuguesa, vamos aproveitar a campanha eleitoral que se aproxima em... isto relativamente às eleições antecipadas do dia 30 de janeiro.
Acho que é um bom tema, Artur, porque o movimento associativo que devia ser portador deste combate está muito em baixo. O próprio Conselho das Comunidades também. Eu recordo-me que há um certo número de reivindicações, de propostas que deviam ser feitas. A Cplp devia ter observadores das comunidades portuguesas, conselheiros das comunidades, para que esse combate fosse levado a esse nível internacional também. E estas lutas que nós travámos há uns anos atrás deixaram de interessar, deixaram de ter protagonistas, não é? E é muita pena.
Estamos aqui para isso, para relembrar aqueles que têm, como dizem outros, aliás vou falar nisso, de português não sabe. Bom, isso é noutra história. Isto tem a ver com o RG e as primeiras edições do RG em Portugal, final dos anos 30. Bom, vai ser outra história que irei abordar um bocadinho mais tarde. Obrigado, José Machado, e até muito breve então.
Um abraço. abraço, Artur. Um abraço.
Obrigado.
Deus obrigado.
E agora uma paginazinha a cores e depois iremos falar precisamente. RG ao Portugal, o Sr. Oliveira da Figueira, Elisa Vatior de RG e Tintin, ou Tantan, Tintin, Tim-Tim, em Portugal. Edição Chandeia.
Si quelqu'un vous propose de rochemazer avec des bulles, ne vous étonnez pas. Rochemazer, c'est aussi déguster un vin élégant aux fines bulles, et pas n'importe lesquelles, celle d'un chardonnay rochemazer. Oui, rochemazer fait pétiller le chardonnay. On peut alors rochemazer à l'apéritif avec des feuilletés aux chèvres, ou même rochemazer au dessert avec des macarons.
Rochemazer, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Carrefour. Pour Noël, quand on aime le saumon fumé, que ce soit sur des toasts ou sur des blinis, pardon, je ne danse jamais la bouche pleine. Jusqu'au 19 décembre, avec 30% de remise immédiate, les 8 tranches de saumon fumé de Norvège Laberry sont à 10,84€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, des fêtes extra à prix ordinaire.
Grandes origines, 310 grammes, autre grammage disponible. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Fresh Days Zalando. Oh,
j'ai toujours pas commencé mes cadeaux.
Relax, pour les Fresh Days, Zalando propose des remises jusqu'à moins 50% sur une superbe sélection.
Oh, merci Zalando.
Jusqu'à lundi minuit, ce sont les Fresh Days Zalando. Pour tous vos cadeaux, bénéficiez de remises jusqu'à moins 50% sur vos marques favorites. Et profitez toujours du service Essayez d'abord, payez après. Détails de l'offre sur Zalando.fr.
Lorsque Lucie s'est offert la batterie de ses rêves sur Amazon, elle ne l'a pas payée en une fois. Ni en deux fois, ni même en trois fois, mais bien en quatre fois. Comme ça, elle a pu étaler ses dépenses et en profiter tout de suite. Ah, c'est quand même mieux que de s'entraîner avec des stylos sur son bureau. Amazon, achetez maintenant et payez en quatre fois sans frais. Crédit de moins de 3 mois consenti par Cofidis. Délai légal de rétractation 14 jours. Voir conditions sur Amazon.fr. Amazon EUSARL, enregistré à l'ORIAS comme mandataire non exclusif en opération de banque et de services de paiement.
SFR présente le Noël idéal de Marc.
Faudrait le cadeau qui fait plaisir à tout le monde.
Waouh !
Mais oui, la fibre, pour jouer en ligne avec mon fils.
Papa, t'es nul !
Et regarder une série avec ma fille.
Chut, j'entends rien !
Je crois que ça leur fait plaisir.
Si vous voulez leur faire plaisir, c'est maintenant. Jusqu'au 20 décembre seulement, pendant mes jours fibres chez SFR, la fibre est à 10€ par mois pendant un an, puis 38€. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Sous réserve d'éligibilité, engagement 12 mois.
Leclerc.
Ah, il fait froid, hein?
Chaud les marrons, chaud.
Où ça?
Bah ici, chez Leclerc. Regarde, la boîte de 510 grammes de marrons entiers est à 3,99€ avec 20% de tickets Leclerc.
Ouh, ça sent bon Noël, ça.
Une bonne dinde au marron, qu'est-ce t'en dis?
Je dis joyeux Noël, joyeux marron et joyeux Leclerc.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 7 au 18 décembre, origine Espagne, Italie ou Portugal selon approvisionnement. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Savez-vous quel est le cadeau qui a vraiment du sens, ne coûte rien et dont la valeur est inestimable? En l'offrant, on donne bien plus que le sourire. On donne la vie. Ce cadeau, il vient du cœur. Et ce n'est pas qu'une expression.
À Noël, donner son sang, c'est le plus beau des cadeaux. Prenez rendez-vous, même au dernier moment, sur le site de l'établissement français du sang.
Vous préparez un projet immobilier, mais vous ne savez pas vers qui vous tournez. Pas de panique, les notaires sont là. Compromis et promesses de vente, conditions suspensives, diagnostic, plus-value, financement, acte définitif.
Ok, mais concrètement?
Concrètement, les notaires vous offrent une approche globale de votre projet immobilier pour plus de sécurité et de sérénité. Si vous êtes vendeur, consultez votre notaire avant la mise en vente de votre bien pour un audit juridique et technique. Et ainsi, plus de mauvaises surprises.
Du 13 au 17 décembre, pendant la semaine de l'immobilier, les notaires de France se mobilisent pour vous. Renseignements et inscriptions sur notaire.fr.
Casting mascotte Feu Vert, le requin.
Salut mes petits anchois. Pour Noël, chez Feu Vert, la pizza 4 saisons est à partir de 49,90€.
Mais non, pas la pizza. Le pneu Feu Vert 4 saisons compatible loi montagne. Il est marteau ce requin.
Feu Vert, rien ne remplace l'expert.
Prix hors pouce, facturé en sus. Exemple de prix pour un pneu en dimension 14 pouces, 175-65-86H. Voir détails sur feuvert.fr.
Eh oui, Rochemazet fait pétiller le chardonnay. Vous pouvez alors rochemazer avec un tartare de saumon.
Rochemazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Carrefour. La filière qualité Carrefour, ce sont nos producteurs partenaires qui en parlent le mieux.
Je m'appelle Natalia.
Je m'appelle Thierry. Nous élevons des chèvres avec Natalia dans le cadre de l'AOP Mâconnais.
Nous produisons le lait pour la filière qualité Carrefour depuis 2021 en respectant l'environnement et bien-être animal.
Vous avez été très nombreux à venir à la rencontre de nos agriculteurs partenaires filière qualité Carrefour. Merci à tous. Carrefour.
Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Haverá sempre uma música, haverá sempre um filme, uma hora, para me fazer lembrar de ti, para me fazer lembrar de ti, para me fazer lembrar.
Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar. Dizes que somos dois loucos, já faltam cá poucos, há que aproveitar. Digo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar. O tempo é bom conselheiro, é sempre o primeiro.
A Lusofonia em França.
Mostra-se um pouco desse amor que você diz ter por mim. Já cansei desses jogos que fazes, vamos só ficar.
Alfa, estamos ligados.
Rádio Alfa.
E voltamos aqui ao direto e na semana passada recebemos via telefone Nadege Ponhar, isto sobre o espetáculo Fado Dão Leven, um espetáculo que vai ter lugar teatro e música no Teatro de L'Échangeur em Bagnolet a partir da manhã e até o dia 18 às 20 horas e 30 minutos com certo número de animações igualmente com debates e por aí afora às 20 horas e 30 minutos e vale a pena precisamente ouvir aquilo que eu chamo bonne annonce, não é bem isso, mas enfim.
Le fado, c'est la fatigue de l'âme forte. Le regard de mépris que le Portugal jette à ce dieu en lequel il a cru et qu'il a pourtant abandonné. Le fado, c'est la capacité d'accepter un destin tragique. C'est une capacité de renonciation et de soumission reliée au courage. C'est le blues portugais. C'est le destin des marins. C'est un théâtre qui vient des océans. C'est le sanglot qui chante. C'est un théâtre liquide. Fado dans les veines, c'est d'abord mon histoire. Une histoire de l'exil. L'histoire de mon grand-père portugais. Ainsi que de milliers d'autres qui sont arrivés en France en fuyant le régime autoritaire de Salazar. Et c'est de cette migration ancienne, intime, politique, de ce fado de l'âme et de l'exil, que j'ai toujours caché comme un secret impossible à prononcer, dont j'ai voulu faire poème.
C'est elle qui a fait la mise en scène, etc., etc., comédienne. Donc, cette pièce théâtre musical, ça sera à partir de demain jusqu'au 18 à 20h30 au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Eh bien, on va partir dans l'univers de Hergé, ni plus ni moins. Alors, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, apparemment, le Portugal a une importance énorme dans l'œuvre de Hergé. Michel Chandaigne, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, ravi de vous revoir.
Et merci. Alors, justement, ça vient à propos de Hergé au Portugal. Le Signor Oliveira de Figueira et les aventures d'Hergé et Tintin, je fais exprès, au Portugal. Il s'agit de c'est Albert Algout, qu'on a connu bien nulle part ailleurs, j'en passais les meilleurs, justement, et avec les illustrations de Philippe Dumas. Alors c'est quelque chose que je pense que la plupart des personnes méconnaissaient complètement et qu'Albert Algout est allé chercher, c'est que les premiers albums de Hergé faisaient plein de références au Portugal.
Oui, alors les premières, avant d'être en album, les parutions en journaux, il y a trois personnages portugais dans les aventures de Tintin. Il y a le seigneur Oliveira da Figueira, bien sûr, qui apparaît dans trois albums, et même il écrit un télégramme dans les bijoux de la Castafiore. Et puis il y a le seigneur João dos Santos de Coimbra, de l'université de Coimbra. Il y a aussi le directeur du Diário de Lisboa, et même il y a un armateur, Alvaro Costa, qui est même cité. Donc il y a des personnages portugais assez nombreux, dont un qui est très important, qui est le seigneur Oliveira da Figueira, qui sauve Tintin à plusieurs reprises.
Alors, je pense que les premières planches ont été diffusées par un magazine qui s'appelait Papagaio.
Oui, et très tôt, en 1936, la revue pour enfants, Papagaio, qui a été fondée par Adolfo Simão Schmuller au Portugal, eh bien, va publier les aventures de Tintin. C'est les premières éditions de Tintin en dehors de la Belgique, dans le monde. C'est la première langue autre que le français dans laquelle Tintin est publié. Et ils vont commencer par Tintin en Amérique du Nord. Mais là, la grande nouveauté, c'est que ce sont des planches en couleur qui paraissent au Portugal, c'est-à-dire 6 ans avant les premières planches en couleur qui vont paraître en Belgique. Donc c'est tout à fait novateur, et avec des couleurs très étonnantes, un peu à la Andy Warhol, des couleurs que Hergé jugera au début pas mal, puis finalement très criardes. Il dira, on a l'impression que ça a été coloré par des enfants atteints de daltonisme.
Voilà. Ni plus ni moins. Alors Michel Chandaigneur, curiosité. Tintin. Il devient un reporter portugais.
Oui, il est portugais. Donc
pure souche, attention.
Pure souche, Lisbonne. Hein,
voilà, ouais. Milou, c'est plus un chien, c'est une chienne. Elle a eu plusieurs noms. Bon, et tout est comme ça. C'est extraordinaire comment les Portugais sont appropriés les personnages, sans oublier Capitaine Haddock. D'ailleurs, on l'appelait
Capitaine Rosa. Il y a eu deux étapes. C'est-à-dire, au début, en effet, Tim est de Lisbonne, il y a des panneaux Lisbonne un peu partout qui apparaissent, et puis le chien c'est Ronron, parce que Milou ça allait pas, c'était le nom d'une jeune actrice qui allait devenir connue, Maria de Lourdes Almeida, qui récitait des poèmes à la radio à l'âge de 10 ans, et Müller a dit non, c'est pas convenable de donner le nom d'une jeune fille à un chien, donc il l'a débaptisé et il l'appelait Ronron. Enfin, d'abord Pompon, puis Ronron. Et puis, le docteur Müller, quand il apparaît, le directeur de la revue est furieux que Tintin ait donné le nom du Pierre Salaud de la bande qui ait donné son nom. Donc, il le débaptise. Il en fait le docteur Silva. Mais après la guerre, tous les personnages vont être lusitanisés. En effet, le capitaine Haddock devient capitaine Rosa, Tournesol, Pintadinho de Branco, etc. Même les personnages secondaires. L'expédition au centre d'Ersartmouth, dans les 7 boules de cristal, devient Jacinto Passos, etc., etc. Et tout devient portugais. C'est très étonnant.
D'ailleurs, Michel, si je crois bien, les aventures soit partent ou arrivent à Lisbonne.
À Lisbonne, oui, tout à fait. Oui. Et il y a des étiquettes, Lisbonne, il y a tout. Et ça va beaucoup plus loin, parce que quand Tintin au Congo apparaît, dans les années 39, ça devient Tim Tim na Angola. M'Angola. Tintin en Angola. Et tout est transposé du Congo à l'Angola. Et les références sont des références à la grandeur du Portugal, la grandeur coloniale, etc., qui inondent un peu toute la bande dessinée. C'est très très étonnant comme adaptation. Et parfois très drôle, hein, parce que il y a des censures, par exemple, dans Tintin en Amérique, Tintin est sauvé parce que les ouvriers font grève. Mais non, il n'est pas question de grève sous la dictature, donc c'est l'heure du déjeuner. Hora do almoço,
On parle pas de grève dans Tintin, voilà.
Oui, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, pour le réalisateur de Papagaï, Adolphe Simon et Schmuller. Bon, d'abord, c'était un catholique, mais ce fervent catholique est proche du pouvoir salazariste. Donc, on se permettait des libertés avec le texte original d'Hervé. C'est étonnant, tout ça.
Tout à fait. Et par exemple, le personnage d'Oliveira da Figueira, quand il apparaît, il déplaît beaucoup aux Portugais. Ce gros type, bedonnant. En plus, dans les premiers dessins, il était particulièrement ridicule. Et donc, les Portugais, Müller n'a pas du tout aimé ce personnage, son compatriote, donc il le débaptise. Et quand Oliveira apparaît, c'est dans Les Cigares du Pharaon, si on lit la bande dessinée portugaise, qui paraît dans Papagaio, c'est un Espagnol, il s'appelle Oliveiro de Malaga.
Malaga, tout à fait.
Non, il y a plein de choses très très drôles qui fait que ça a permis de faire un livre où il y a, comme d'habitude chez Algou, une biographie ni imaginaire, ni réel, hein, de Seigneur Oliveira da Figueira, qui est un juif portugais, puisque dans l'esprit des gens, porter des noms d'arbres, ça veut dire qu'on est d'origine juive, hein, c'est complètement faux, comme des idées reçues, mais qu'importe. Et puis, il représente typiquement ce juif de la diaspora qui a dû fuir l'Inquisition, qui s'est installé dans les pays musulmans. Donc, il fait une biographie un peu imaginaire, quoi, très drôle. Et puis, dans une seconde partie, il y a une sorte de dictionnaire avec toutes les bizarreries, les singularités de l'édition de Tintin au Portugal. Et ça, c'est très drôle.
Oui, le glossaire. Mais justement, alors, par rapport à ce monsieur d'Oliveira, et pas seulement, il parle de ses origines juives, mais Algo d'Albert, il fait un petit tour par l'histoire du Portugal, parce qu'il revient avec des dates qui sont vraies, celles-là.
Tout à fait. Il y a dans la généalogie d'Oliveira da Figueira, il y a des personnages, on rencontre Georges d'Oliveira, qui est un juif connu au XVe siècle, au XVIe siècle au Portugal. On rencontre Arthur Rimbaud, on a Henri de Montfred, Don Manuel, Philippe II d'Espagne. On rencontre des personnages réels. Et il a fait ça avec la Castafiore. Il mêle tous les éléments biographiques qu'on peut tirer de la bande dessinée elle-même, des archives Hergé, comment il a construit, et par exemple Henri de Montfred, c'est une invention d'Hergé qui a collé les traits d'un capitaine de Boutre qui recueille Tintin et Oliveira da Figueira. Il a collé les traits d'Henri de Montfred, ça on le sait dans les archives, et puis l'histoire tout à fait réelle du pays, du Portugal, et bien sûr une partie imaginaire pour faire le lien. Et ça c'est tout le talent d'Algou, l'humour, qui fait que c'est un livre très drôle, quoi.
Alors, les Portugaises. Bon,
on ne sait plus ce qu'il y a
de vrai ou
de vrai et de faux. Voilà.
Alors, j'en reviens un petit peu à ma région. Parce que les Portugaises, c'était des moules dans l'histoire du Tage. Eh bien, apparemment, c'est les Portugaises de Tournesol, professeur Tournesol. Donc, c'est peut-être là qu'il vient avoir les Portugaises assemblées, parce que le professeur Tournesol n'entendait pas très bien.
Oui, voilà. Mais c'est une suggestion alors complètement burlesque d'Algou. Mais bon, c'est vrai que les Portugaises de Tournesol, ça vient avant que dans l'argot français, le mot portugaise en sablé arrive. Hein, ça arrive dans un roman d'Antoine Blondin en 1951. Touchez pas au Grisby. Pas de Blondin, pardon, d'Albert Simonin. Et effet, Hergé a été le précurseur des Portugaises en sablé de cette expression.
Il y a quelque chose qui reste, d'ailleurs, Allgood, bon, je sais pas, il s'est bien documenté, Tintin pour Tintin,
oui.
C'est aussi la librairie de Porto, située au 27-29, rue de Conceição, un rendez-vous de tous les tantinophiles, pardon, et amateurs de BD. Alors, en plus, c'est un jeu de mots, parce que Tintin pour Tintin,
oui.
Ça veut dire plein de choses.
Oui, parce que c'est dans Tintin en Amérique, et là, on voit l'attention à la traduction. Dans le texte français, il y a dit, Tintin, un reporter haut comme trois pommes a attrapé des bandits dangereux, le tout raconté en détail. C'est dans le texte français. Et le traducteur a eu ce génie de dire le tout raconté tim-tim pour tim-tim. C'est une expression portugaise qui veut dire exactement ça. Et là, c'était le coup de génie du traducteur d'alors, oui.
Tout à fait. Et alors, Michel, quelque chose que je méconnaissais complètement, un échange des droits d'auteur, des boîtes sardines.
Ah oui, parce que pendant la guerre, c'est difficile de payer des droits d'auteur à Hergé en Belgique, donc il a demandé d'être payé en nature. Et on a dans les archives des tas de reçus de boîtes de sardines. Il y a un reçu où il y a 217 boîtes de sardines qui arrivent. Il s'est fait payer pendant la guerre, donc en boîtes de sardines, en vin, en saucisses, en chocolat, en café. Et il recevait d'ailleurs tellement de victuailles du Portugal qu'il a même été soupçonné de s'adonner au marché noir. Voilà.
Alors il faut dire que ça, et en grande partie, c'était pour le frère de Hergé qui était dans un camp de concentration.
Hein.
C'est qu'il disait, bon. Oui, parce que c'est vrai qu'Hergé nous a raconté plein de trucs. Bien entendu, bon, quand on commence à lire le livre et la façon de Al Gould qu'il a de parler, de présenter les choses. Bon, c'est, d'ailleurs, le livre, il est très, très, très visuel. Michel Chandaigne, donc, pour avoir davantage de détails et rire dans le sens du terme, donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 19h.
Mercredi.
Mercredi.
Oui, on fait un petit lancement, enfin, une signature, parce que on peut pas mettre trop de monde dans la librairie en même temps, mais Albert Algout signera son livre. Donc on aura d'autres livres d'Albert Algout, dont les jurons du capitaine Haddock en portugais, qui vient d'être traduit. C'est quand même notre grand spécialiste de Tintin en France. Et il y aura aussi le dessinateur, parce que comme nous n'avons pas eu l'autorisation de reproduire les dessins originaux, nous avons demandé à Philippe Dumas, des grands illustrateurs français, de faire une évocation libre et humoristique de tout ce qu'il y a dans le livre, en dessinant des personnages, des Olivera la Figuera, des Tintins, des Milouf, pardon, des Ronrons, mais sans plagier, en restant dans le cadre de la loi. Mais il a fait un travail très drôle, avec près de 100 images qui sont pleines d'humour pour tous les gens qui connaissent Philippe Dumas, et lui fera des petits dessins après que Algout a signé.
Mais Michel,
donc c'est le 15 à 19h.
Le 15, mardi 15. Oui, ça n'a rien à voir avec une affichette qui circule, même sur Internet, il va falloir la changer, même sur
le site. Oui, c'est-à-dire, on a d'abord fait un lancement le 16, on l'a annoncé, et le lendemain, je me suis aperçu que je faisais une conférence à Autun, et donc on l'a changé, on a averti tout le monde. Mais il y a des gens qui l'avaient déjà mis sur Internet et l'errata n'est pas arrivé. Oui.
Mais n'est pas arrivé. Voilà. Mais si on peut revenir aux illustrations, au dessin de Philippe Dumas, il y a une expression en portugais "à marche que vem por bem". Donc ça veut dire bon finalement.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que cette contrainte que nous a imposée Boulinsart a permis de faire un livre beaucoup plus imaginatif et amusant que si on avait simplement illustré les propos d'Algout par les vignettes originales. Donc voilà, en effet, c'est exactement ça. Oui.
Voilà, si on veut lire Hergé et Tintin d'une façon différente, vous allez apprendre des choses si vous allez relire les premiers albums. Michel Chandaigne, merci, je vous remercie beaucoup. Donc ça va être le mercredi 15 à partir de 19h30 à les librairies portugaises et brésiliennes, 1921 rue des Fossés de Saint-Jacques, Paris 5e. Vous avez plein de métros, vous avez plein de bus, etc. etc. Et à propos, je pense qu'il faut montrer le pass sanitaire, Michel Chandaigne.
Oui, il faut montrer le pass sanitaire et on s'arrangera qu'il n'y ait jamais trop de monde en même temps dans la librairie. Donc ça devrait être fluide, mais bon, voilà, donc ça sera sécurisé.
Voilà.
Masque, gel et pass sanitaire. Voilà.
Voilà. Sans oublier quelque chose d'autre, mais je ne vais pas le dire maintenant. Michel Chandaigne, merci bien. Et de toute façon, on aura, j'espère, avoir dimanche prochain qui Max de Carvalho, ça au sujet. Voilà, la poésie de Portugal, des origines au XXe siècle, un gros format. Il y a plus de 300, je pense, 300 poètes.
Oui, 280 poètes, 2000 pages et tout en bilingue. Voilà. Et Max a fait un travail absolument époustouflant. Quoi.
Un papier Bible, en plus.
Un papier Bible,
voilà. Une publication extraordinaire. J'attends la confirmation de pouvoir interviewer justement le travail de Max de Carvalho. Lui-même, il est poète, il ne faut pas l'oublier.
Oui, poète, écrivain, revuiste. Non, c'est une personnalité tout à fait passionnante. Et voilà, il a fait un travail extraordinaire.
Merci, Michel Chandaigne. Et à très bientôt, alors.
À bientôt, merci Arthur. Au revoir.
Donc, le mercredi 15 à 20h30, librairie, bon, je peux pas pour la forcer, j'en fais moi, librairie portugaise et brésilienne de Le Seigneur Oliveira, Les Aventures d'Hergé et Tintin au Portugal, Albert Allgood, dessin de Philippe Dumas, édition Chandaigne. Et, bon, estamos a dizer bye bye, eu quero dizer obrigado, Manuel Xande, contamos voltar aqui e falar de poesia portuguesa, vamos saber o que se vai passar ainda durante a semana. E para vos deixar, vai ser uma dupla, como tenho o hábito de dizer, impropriamente, César e Évora e Teófilo Chantre, na medida em que vai haver uma homenagem a César e Évora no Café A, que se encontra em Paris 10, 148 Rue du Faubourg Saint-Martin, em Paris 10, no dia 17 de dezembro, às 20h30, com Teófilo Chantre, mas igualmente com artistas de Cabo Verde, Angola e por aí fora, bem-ajam, e aqui fica Mãe da Fiji.
Um braço, um beijo, um perto, um chorar. Fiji, onde é que botava? Não há de quem vou perder. Oh, que medo, oh, que susto. Um pensar, um catavar. Oi, ó, mas olha, mocinho, olha, rapazinho.
Vou abraçar, vou beijar, vou apertar, vou chorar. Me também um chorar, as lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção de nós, separação, na reconforto de nós, reunião.
Um braço, um beijão, um perto, um chorar. Fiz onde é que botava, nem modo quem vou perder. Oh, que medo, oh, que susto. Um pensar, um catava, oi, ó, mas olha, mocinho, olha, rapazinho.
Vou abraçar, vou beijar, vou apertar, vou chorar. Também um chorar, nas lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção de nós, separação, na reconforto.